À toutes et à tous, et bonjour pour ce premier numéro confiné de la nouvelle série de Post-Pop avec notre post-popeuse confinée Delphine Chedaleux. Tu vas bien, Delphine, dans ton confinement?
Ça va très bien, merci.
Ça va très bien, mais génial.
Ça va très bien, je suis une confinée plutôt privilégiée, donc ça va.
Voilà, il suffit de le savoir. Toi aussi, confinée privilégiée?
Je suis enfermé avec 3000 films, donc on va dire que je suis un comfy confiné. Voilà.
Donc, on va dire que c'est l'horreur. Alors, évidemment, dans ce premier post-pop confiné, on va s'arrêter sur des images de confinement et sur des images, enfin plus exactement sur des images de pandémie. Peut-être en partant de ces images qu'on nous montre ces jours-ci et que nous avons tous en tête, ces images de rayons vides, ces images de soignants harassés, de politiques dépassées, ces images qui font écho à des images que nous avons déjà vues, même si nous nous en souvenons pas toujours parfaitement au cinéma. Alors, les films de pandémie, les films post-apocalyptiques, peuvent-ils nous aider à poser des mots sur l'angoisse, l'appréhension, la colère, l'abattement, la résignation? Toutes les émotions contradictoires qui nous assaillent en ce moment, c'est ce qu'on va essayer de voir en nous arrêtant sur trois ou quatre films. Et en commençant sur un film que tu nous as proposé, Rafik, que tu as inclus dans la sélection, un film s'appelle Problemos, alors, sur lequel on pourrait se demander a priori pourquoi tu nous l'as mis dans la sélection. En tout cas, c'est la question que je me suis posée en commençant à le voir. Alors déjà, ce film, tu nous le sais.
Oui, c'est un film d'Éric Judor, Problemos, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, et qui raconte l'histoire d'un couple qui va rendre visite à un groupe de zadistes pour quelques jours, et qui, pendant ces quelques jours, va se retrouver bloqué par une pandémie, et donc condamné à vivre avec ces gens dont la volonté de recréer une nouvelle façon une nouvelle société, en fait. Et bien sûr, l'événement qui va s'abattre sur eux va les autoriser à tenter de réinventer cette société dont ils rêvaient.
Voilà, et donc nous commençons par la scène clé où en effet l'événement s'abat sur eux.
Sur Twitter, ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. C'est que pain de mie chimique. Attends, en plus, regarde comment ils écrivent pain de mie. C'est abusé, ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter.
Mais Victor déteste Twitter.
Faux, j'ai des Twitter, j'aime ça.
Toi, t'as des Twitter?
Oui, j'ai des Twitter.
C'est clair que c'est chimique, le pain de mie, mais dans ce cas-là, on mange plus rien. À ce qui paraît, le surimi, c'est chimique aussi, mais c'est bon.
Attends. Alors, pandémie. Pardon? C'est pas pain de mie? C'est pandémie. C'est une putain de pandémie. Il y a une putain de pandémie.
Une pandémie.
T'es débile toi.
Une pandémie, c'est une
elle
pandémie.
Elle est débile. Elle est débile.
Il a écrit pandémie.
Une pandémie.
Il y a une énorme différence.
C'est pas une pandémie, ça va.
C'est pas vrai.
Alors ça a commencé il y a 2 semaines et demie au Venezuela, ça a été fulgurant.
Et depuis 4 jours, il y a plus du tout de signal nulle part, même en Russie.
Non mais sérieusement, vous allez croire des infos que vous voyez sur Internet? Non mais j'hallucine.
C'est la fin de l'humanité, hein.
Eh hey, mais c'est bon, on a Internet, t'es dépressif toi. C'est une catastrophe naturelle, c'est pas chez nous.
C'est une pandémie, Maeva. Putain de merde. Comment c'est possible d'avoir un portable et de rien avoir remarqué?
On se calme, d'accord?
Mais c'est bon, c'est pas sur les sites d'info, c'est tout.
Mais putain, c'est quoi cette gamine?
T'es ouf,
là?
Mais
attends, mais Maeva, mais t'es sur les réseaux sociaux quand même, non?
Réseaux sociaux? La meuf, elle a 40 000 ans, là, à l'Académie française.
Bon, stop, écoutez tous. Premièrement, on reste calme, on garde son sang-froid. Et deuxièmement... Il va falloir regarder ce qui se passe concrètement à l'extérieur. Au moins jusque Lantenay.
Ah, Lantenay, mais pourquoi pas Montélimar, non?
Voilà, pandémie, Problemos, pardon, comédie française dans la plus pure tradition du Splendide. Alors, avec Blanche Gardin, qu'on vient de voir là dans le.
Oui, qui a co-écrit le film.
Qui a co-écrit le film, qu'on vient de voir dans le dernier plan, avec Éric Judor, qui est à la fois le réalisateur du film qui tient le rôle principal. Alors, c'est parce qu'on allait avoir une mission assez angoissante et beaucoup évoquer nos propres angoisses, Rafik, que tu as voulu inclure cette comédie dans la sélection.
D'une part, oui, et puis aussi parce que, comment dire, le confinement auquel nous sommes tous obligés, j'ai l'impression, va nous obliger aussi à reconsidérer notre façon de vivre au quotidien. Donc, c'est un petit peu le sujet de cette comédie.
Qu'elle a un sujet, en fait.
Pardon ?
Elle a un sujet, cette comédie.
Elle a le sujet de à quoi ça ressemblerait concrètement, cette société rêvée.
Ah, mais c'est pas tout à fait le sujet que j'y avais vu. Moi, j'ai plus vu le choc entre le trio, puisque c'est un couple avec un enfant, le trio de citadins hétéronormés qui arrivent au milieu des babacools à guitare et qui remettent en question la société. Mais bon.
Oui, selon moi, le vrai sujet du film, c'est aussi ça. C'est aussi les alternatives politiques qui font là l'objet d'une satire. Mais quelles sont les alternatives politiques aujourd'hui? À quoi elles ressemblent? Et la ZAD, Nuit debout, c'est les références qui sont citées à chaque fois qu'on parle du film.
Cela dit, la scène qu'on vient de voir nous parle quand même aussi de notre quotidien, c'est-à-dire la sidération qui s'abat sur le groupe et notamment sur l'adolescente quand elle se rend compte de cet événement inouï, indicible et impensable à tous.
Tout à fait.
D'accord. Voilà, bon, bah, écoute, maintenant qu'on a commencé très léger, on va s'approcher... par cercle concentrique du vrai sujet, avec le deuxième film de notre corpus, alors qu'il y a un film qui est évidemment très très différent, il s'appelle Contagion. Qui est-ce qui nous le présente? Rafik, encore.
Vas-y, Rafik.
Oui, je peux le présenter. Donc, Contagion, c'est un film de 2011 réalisé par Steven Soderbergh avec un casting assez. Assez lourd hein, de stars hollywoodiennes, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow et notre Marion Cotillard nationale, qui donc raconte d'une façon assez chronologique à quoi ressemblerait donc une pandémie dans la société du 21e siècle. Et donc on assiste en fait, on part du patient zéro et on voit comment les organismes internationaux de protection médicale se rendent compte en fait de la progressive apparition de cette nouvelle maladie et tentent d'une part de l'enrayer mais aussi de contrôler en partie le discours médiatique autour de ça pour ne pas paniquer les gens, etc. Jusqu'à ce que ce soit sans retour d'une certaine façon. Et le film est donc peut-être très étonnant à revoir aujourd'hui dans son caractère prédictif.
Voilà,
je ne sais pas si on
a... Parce qu'il y a énormément effectivement, il y a énormément, et on va en parler, il y a énormément d'éléments, de scènes qui sont ultra prédictifs. Alors, on va commencer par une scène que toi, Delphine, tu as choisie, qui est la scène qui se déroule dans un des lieux cardinaux, on va dire, de la pandémie naissante et de la contagion naissante, qui est le supermarché.
Just get the cereal.
Jory, don't touch anything.
Help me.
Okay, take your gloves off. Here, give me your hands. Okay. You really rub this in.
Alors Delphine, qu'est-ce que tu vois toi dans cette scène?
Alors d'abord, moi j'aimerais commencer par dire que je n'aime pas les films post-apocalyptiques ou apocalyptiques, parce qu'on est plus dans l'apocalypse là que dans le post-apocalypse. Mais je n'aime pas ces films parce qu'ils ont un effet paralysant sur moi. En fait, ça a un effet vraiment, c'est des films désespérants, je trouve, et qui ont vraiment un effet paralysant qui me sidère, voilà. Mais c'est vraiment un sentiment très personnel hein, par rapport à ces films. Donc, je suis un peu partie de ce rapport personnel que j'ai à cet imaginaire apocalyptique ou post-apocalyptique pour voilà, appréhender cette série de films qu'on a choisi et puis aussi cette situation qu'on est en train de, qu'on est en train de vivre. Et au fond, ce qui me semblait intéressant d'interroger dans ces films, dans ce film en particulier, qui, c'est vrai, est assez, enfin, dont le caractère prédictif est totalement sidérant, c'est assez dingue. Et d'ailleurs, il ressort en ce moment beaucoup, ce film, évidemment. Et au fond, je me suis demandé, voilà, de quelle manière ces films médiatise, mais aussi constitue notre rapport à l'urgence environnementale, qu'elle soit climatique, sanitaire. On voit que les deux questions sont liées, d'ailleurs. Hein. Il y a des articles ces jours, un article qui cite notamment un chercheur du CNRS, Jean-Michel Clavry, qui montre que la question climatique et la question de la pandémie, questions sanitaires qu'on est en train de vivre, elles sont liées en réalité. Et donc voilà, quelles sont les valeurs sur lesquelles reposent ces films, les croyances et quelles énergies aussi est-ce qu'ils insufflent, parce que chez moi, ils insufflent une énergie extrêmement négative.
Ah, quand même, tu disais que ces films te désespéraient, te paralysaient.
Oui, bah, c'est ce que j'appelle une énergie négative. C'est-à-dire...
Ah, négative, une énergie négative.
Ouais.
Ouais, c'est-à-dire le désespoir, en gros le désespoir.
Oui, le désespoir, la paralysie, l'impression que ça va s'abattre sur nous et qu'on ne va rien pouvoir faire. Quoi. Et c'est ça. Et au fond, c'est l'imaginaire de l'effondrement. Le point commun de tous ces films, c'est l'imaginaire de l'effondrement. Et voilà, et qu'est-ce que cet imaginaire génère, crée, et ce qui permet au fond une prise de conscience de la situation, de l'urgence de la situation. Ou bien est-ce qu'au contraire, il agit comme un écran voilà, entre nous et la réalité écologique ?
Vraie question.
Vraie question
à laquelle on va essayer de répondre. Alors, ce qu'il faut dire déjà, qu'on découvre ces films alors que nous sommes déjà depuis plusieurs jours bombardés d'images qui, pour certaines, renvoient directement à ces films. À ce moment où dans les allées du supermarché, une femme, une cliente, tous à la figure du personnage, on entend le son de cette toux et évidemment ça nous ramène directement à ce dans quoi nous sommes ces jours-ci.
Alors la différence, c'est que quand même dans Contagion, mais dans disons ces films, plus largement ces productions culturelles qui reposent sur cet imaginaire de l'effondrement, on a précisément un effondrement des institutions. On voit là dans le film, bon, toutes les institutions disparaissent. Il n'y a plus de police,
etc.
Et puis plus largement, un effondrement de ce qu'on pourrait appeler le pacte ou le contrat social aussi, hein, puisqu'on revient à une espèce d'état de nature où chacun lutte pour sa propre survie et où les conduites ne sont plus réglées par des normes sociales ou par un pacte social, mais par des besoins, des instincts. Et donc,
Delphine, n'allons pas trop vite parce qu'on a beaucoup d'extraits à commenter.
Oui, ce que je voulais...
La disparition des institutions, on va la voir. Oui. Là, on était dans les allées du supermarché.
Oui, alors, ça, c'est quand même une différence très importante avec ce qu'on constate dans la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire que le pacte social n'a pas disparu et qu'effectivement, s'il y a des rayons de papier toilette vide, les gens ne s'attaquent pas les uns les autres pour leur propre survie. Non,
à l'heure où cette émission est enregistrée.
Non. Mais en tout cas, voilà. Et ce qui finalement me dérange, je me suis aperçue de ça dans ces films, et cette scène, elle est assez parlante pour ça. C'est vraiment l'absence d'alternative collective. Il n'y a aucune alternative collective. Et la seule issue, c'est le pouvoir d'agir individuel. C'est la lutte pour sa propre survie qui passe très souvent par un héros. Donc là, on a ce héros, Matt Damon, qui est souvent, évidemment, quasi exclusivement un héros masculin. Et c'est aussi très souvent, et c'est pour ça que cet extrait m'intéressait particulièrement, on en parlera aussi avec Dans la brume, mais disons, l'effondrement, l'apocalypse est aussi prétexte à la réaffirmation du patriarcat, de l'autorité masculine. Et là, on le voit très bien à la fin de l'extrait où il dit quoi faire à sa fille. Très souvent dans ces films, en fait, tout le monde doit se remettre aveuglément un peu entre les mains de ce héros qui prend les choses en main.
Pas de solution individuelle, ça ne s'applique pas tout à fait à ce film quand même, où les héros sont quand même essentiellement des chercheurs et des médecins qui vont tous lutter pour essayer d'enrayer la pandémie, donc qui luttent au service
Oui, parce que c'est un film choral, il n'y a pas seulement ce héros, effectivement.
Alors, ce qui est intéressant sur le caractère prédictif, on va en parler, Rafik, c'est effectivement une des choses qui frappe le plus dans ce film. On va peut-être en parler à partir d'un deuxième extrait, toujours de Contagion. Donc, il y a plusieurs personnages, je le disais. Il y a notamment un personnage femme, qu'on va voir là, le docteur Mears, qui est un médecin du centre du CDC, du centre des maladies contagieuses d'Atlanta, aux États-Unis, qui est frappé de sidération de voir que un de ses interlocuteurs est manifestement contagieux. Regarde.
Mr. Barnes?
Yes.
This is Dr. Mears from the Centers for Disease Control. I believe.
Hi.
I believe you may have had contact with Beth Emhoff last week.
Yeah, I picked her up at the airport. What's this about?
How are you feeling today?
Pretty cruddy, to be honest. Head is pounding. I probably picked up some sort of bug.
Where are you right now?
I'm on the bus, heading to work.
I'd like you to get off immediately.
Wait, what? What's going on?
Where's
the bus, Aaron?
Lake and Lindale. Can you tell me what's
Lake
going on?
Lake and Lindale. I really need you to get off that bus. Listen, it's quite possible you've come in contact with an infectious disease and that you're highly contagious. Do you understand?
I want you to get off now and stay away from other people.
No, what do I do?
Don't talk to anyone. Don't touch anyone. That's the most important thing. We'll send somebody to meet the bus.
Okay.
I'm on my way to you now, Aaron.
What about my kids? I touched them.
Voilà, irruption de l'urgence dans la seconde, résumé dans cette scène de film. Alors, sur ce caractère prédictif, Rafik, alors c'est vrai, moi je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, ils avaient une espèce de boule de cristal dans laquelle ils ont regardé ce qui se passait aujourd'hui et c'est comme ça qu'ils ont fait leur scénario. Comment on peut expliquer cette perfection de la prédiction?
Alors déjà d'une part, le film est écrit par un scénariste qui s'appelle Scott Burns. Ces scénaristes, quand ils travaillent sur de tels sujets, ils ont bien sûr l'opportunité de travailler avec des experts. Donc en l'occurrence, l'expert sur le film, c'était un gars qui s'appelle Larry Brilliant, qui leur a permis de rencontrer des représentants de l'Organisation mondiale de la santé et donc d'avoir une certaine idée de comment ça fonctionnerait si la chose se produirait. Ça c'est par rapport aux informations qu'on a sur Contagion, c'est comme ça que ça s'est fait. Il y a eu 3-4 véritables experts en épidémiologie, je crois que c'est le terme adapté, pour leur donner des indications très sérieuses. Mais il y a aussi une habitude très ancienne à Hollywood, qui est en tout cas pour le gouvernement américain et peut-être, je pense, certaines institutions internationales, de faire appel à des scénaristes pour imaginer justement des scénarios possibles et donc pour se prémunir de différents dangers, qu'ils soient d'ordre médical, terroriste et autres, de faire appel à des scénaristes qui vont se mettre à imaginer des tas de développements possibles. On a des exemples de la NSA qui a fait écrire plusieurs attaques terroristes possibles sur le territoire américain pour pouvoir justement se prémunir de ça. Donc il y a une porosité entre la fiction et la préparation au réel qui peut amener à des films qui apparaissent rétrospectivement comme étant devins.
Ça veut dire qu'il y a dans les tiroirs de Hollywood toutes sortes de scénarios qui ne sont pas forcément tournés d'ailleurs,
Alors, pas toujours dans les tiroirs d'Hollywood, mais dans les tiroirs du gouvernement ou des institutions internationales. Voilà. Donc, c'est cette porosité, en fait, qui crée ce sentiment de déjà-vu, quelque part, lorsqu'un événement se produit. Ça s'était déjà passé avec le 11 septembre. Hein. Les gens avaient déjà, à l'époque, l'impression d'avoir déjà vu ça au cinéma, et parce que ça ressemblait aussi à ce qu'un scénariste des années 90 aurait imaginé. Et d'ailleurs, on avait eu des exemples de séries américaines qui mettaient en scène quasiment cet événement. Donc, ça, c'est pour l'aspect, on va dire, officialisé. Hein. On sait que les scénaristes américains travaillent aussi pour autre chose qu'Hollywood. Et puis après, il y a la vision peut-être un peu plus paranoïaque de ce que Internet appelle le predictive programming, qui est au contraire de préparer les gens à un événement qui pourrait avoir lieu, en tout cas, dans le cas du coronavirus, ça a commencé avec cette histoire de chauve-souris dans une soupe. Et donc, évidemment, quand on revoit Contagion, je ne sais pas si on a l'extrait sous la main.
Oui, mais attends. Alors, non seulement, on va peut-être spoiler le film, mais on ne va pas spoiler la fin de notre émission, à moins que tu veuilles qu'on passe tout de suite.
Ah, pardon, on l'avait prévu pour
oui.
la fin.
Ah oui, c'était...
Pour,
oui.
pour la fin. Donc,
Rafik, dis-moi, ce film-là, tu l'avais vu avant ces jours-ci ou tu l'as découvert ces jours-ci?
Non, je ne l'avais pas vu, ce film-là. J'en avais entendu parler, mais je ne l'avais pas vu. Mais évidemment.
Alors, qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ces images-là à la lumière des images de télé et des photos qu'on a vues?
En fait, on a plusieurs chemins possibles. Donc, le tien qui a été celui de se dire, mon Dieu, mais ils avaient une boule de cristal. D'autres gens te diront, mais non, mais alors c'est que cette crise était prévue de longue date et donc ils ont fait du predictive programming. Voilà. D'autres diraient que tout simplement, on se servit de ce scénario pour se couvrir d'autres choses. C'est-à-dire que...
C'est-à-dire
Que comme pour l'instant l'origine de cette maladie reste encore un peu mystérieuse, hein, la façon avec laquelle cette épidémie s'est déclarée, comme on a tout de suite eu cette histoire de chauve-souris qui a couru de réseau en réseau, ça peut ressembler à, en attendant d'avoir de plus en plus d'informations, tenons-nous à ce scénario-là. Mais ça, bonjour. Encore une fois, c'est cette complexité à appréhender le réel, elle vient de la porosité entre ce travail des auteurs de fiction, on va dire, et des institutions gouvernementales ou internationales sur la préparation du futur.
Oui, c'est-à-dire que là, on imagine quand même que le scénariste, dont tu nous as donné le nom, là, il n'a pas pu avoir d'autres sources de documentation que les grandes institutions internationales, l'OMS.
Oui, tout à fait.
Il s'est peut-être aussi rencardé auprès des gouvernements asiatiques.
Bien sûr. Et il est tout à fait possible qu'on lui ait dit s'il devait se passer quelque chose, ça passerait forcément par la nourriture, par les animaux, etc.
Parce que ce qui est frappant, c'est le contraste entre notre sidération à nous quand cette pandémie nous tombe dessus, nous, le public européen et les pays européens, et apparemment la science parfaitement exacte du cheminement d'une pandémie, de ses causes, de ses conséquences. Presque jour par jour, semaine par semaine, tel que ce film les montre. Je voudrais qu'on voit alors un autre extrait. Delphine parlait tout à l'heure du délitement des institutions politiques et des institutions en général. Il y a un autre extrait qui le montre particulièrement bien.
I'm just having a hard time with the logistics of evacuating you, finding a plane and all. We got a phone. Dr. Cheever, he asked you to call. You feel up to it. And we're setting up a special ward for medical personnel and first responders at the university. I want to move you there. But the nurses' union is calling a work stoppage until protocols are in place. There are volunteers, but it's just, it's hard right now just to know where's the right place.
You're asking me to spend a lot of resources on one person, and right now, I can't do that. Dr. Mears would agree with me.
She's one of our own, Lyle. We sent her up there. Okay, I sent her up there. I would like to go get her back.
That's why we have a plane with an isolation pod to bring our people in the field home when they're sick, right?
What's going on, Lyle?
There's a sick congressman from Illinois in D.C.
He was in Chicago over the holiday. They're using the pod to fly him home, then they're closing down Midway and O'Hare. The governor there is calling out the National Guard. They're setting up roadblocks. They're shutting down the Board of Trade, public transportation. Even the Teamsters are pulling their drivers off the road.
People are still going to slip through, you know.
Yes, they will. The Secret Service is moving the president underground. Congress is figuring out how to work online. When the word goes out, there will be a run on the banks, gas stations, grocery stores, you name it.
People will panic. The virus will be the least of our worries. It will tip over now.
We just need to make sure that nobody knows until everybody knows.
Alors voilà, c'est tout à fait spectaculaire, mais j'ai envie de dire, alors là, pour le coup, c'est peut-être là que la réalité et la fiction divergent. Puisqu'on voit bien aujourd'hui, en vrai, que les personnels soignants, effectivement, demandent des protections, demandent des masques, demandent des surblouses. Mais cela dit, à la différence de ce qui est montré dans le film, ne se mettent absolument pas en retrait et continuent à effectuer leur mission en dépit de cette absence de protection. Mais je dirais là où ça diverge le plus, c'est que là, on est dans un pouvoir qui va essayer de maintenir le secret, enfin, le truc traditionnel, le président a été envoyé en lieu sûr. Ce qu'on voit là aujourd'hui dans la réalité en France, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire c'est le délitement total d'un État dont la nudité, l'imprévoyance apparaissent en pleine lumière, encore ces jours-ci, alors qu'on enregistre l'émission, par exemple, à propos de la question des masques, dont personne dans l'appareil d'État n'ose prendre la responsabilité des raisons pour lesquelles on n'a pas renouvelé les stocks de masques qu'on avait constitués 10 ans avant. C'est-à-dire que ce qu'on voit là aujourd'hui dans le réel, c'est la misère d'État, c'est l'austérité, c'est les budgets coupés, ce qui n'est pas montré dans le film, par contre. En tout cas, pas expliqué. Delphine ?
Oui, c'est intéressant que tu parles de délitement, parce que c'est exactement ça. J'ai écouté très, très récemment, ces temps, une interview de deux chercheurs qui s'appellent Yves Citon et Jacopo Rasmi, qui ont travaillé sur cette question de l'effondrement, de l'imaginaire de l'effondrement, et un imaginaire auquel ils proposent plutôt que de parler d'effondrement. Donc, ils ont travaillé notamment sur tout ce mouvement qu'on appelle la collapsologie, hein, qui est une espèce de science de l'effondrement. Enfin, cette science de l'effondrement qui se dit, qui se revendique comme une science, ce qui est un peu, évidemment sujet à discussion. Mais ils proposent de remplacer l'imaginaire de l'effondrement justement par la notion de délitement. C'est-à-dire, plutôt que d'imaginer un effondrement qui va venir, qui viendra dans le futur, on ne sait pas quand, il vaut mieux essayer d'imaginer un délitement qui est déjà là, en réalité, et qui est le produit de dizaines d'années de réformes néolibérales qui ont…
Et de fait, avec cette histoire de masque, on est en plein dans le…
Exactement. Exactement. Et donc, c'est là, en effet, que ces fictions et cet imaginaire de l'effondrement, on voit bien le décalage avec la réalité qu'on est en train de vivre, qui est plutôt une réalité du délitement, comme tu le dis très bien.
Rafik,
je voudrais juste un point peut-être de détail, mais je ne crois pas que la collapsologie se présente comme une science, mais comme un exercice transdisciplinaire. Hein. C'est pas.
Ça dépend des collapsologues. Ouais. Ça dépend des collapsologues.
Oui, c'est un mouvement divers.
C'est plus un courant français, en tout cas.
Il y a autre chose qu'on. Non, mais Rafik, il y a autre chose qu'on ne voit pas dans le film, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que la réalité a plus d'imagination que le film. C'est-à-dire que, par exemple, Trump face au coronavirus. C'est-à-dire ces semaines de déni, fanfaron, tout ça c'est de la fake news, c'est pas une vraie histoire, etc. Le virage sur l'aile à 180 degrés de Trump dans les tout derniers jours, reconnaissant le danger, est-ce qu'un scénariste aurait pu imaginer ça ?
Écoute, moi je sais que ce qui m'avait marqué il y a quelques semaines, c'était que le président des États-Unis, qui est théoriquement l'homme le mieux renseigné du monde, aille prendre un bain de foule de 100 000 personnes dans un stade en Inde, alors qu'une épidémie s'était déclarée dans le pays voisin. Donc peut-être que ce monsieur a des informations que nous n'avons pas sur la gravité de cette épidémie. Je n'ai pas l'impression qu'il ait considéré l'épidémie comme un faux, mais plutôt la façon avec laquelle les médias américains l'ont
traité. Ah si, les premiers jours, on a une multiplicité de déclarations de Trump expliquant que cette épidémie chinoise, ce virus chinois, comme il dit, est une fake news et qui n'a absolument aucune gravité.
Bah, le traitement des médias.
Le vrai Trump.
Oui, mais le traitement des médias. Ce dont il parlait, c'était le traitement des médias. Enfin, il faudra sortir exactement ses discours, ouais. mais ce n'est pas l'épidémie elle-même. Il ne l'a jamais considéré comme quelque chose de faux, mais le traitement médiatique, oui.
Et l'épidémie aussi elle-même.
Exactement ses propos.
Comme un danger extérieur.
Voilà.
Qui n'aurait pas franchi les frontières des États-Unis.
Et qui ne peut pas les franchir.
Ouais.
Ah, si, si. Enfin, en tout cas,
disait-il.
Le procès qu'on lui fait sur l'idée qu'il en parle comme d'un virus chinois, puisqu'on l'accuse donc de racisme pour avoir qualifié ça de virus chinois. Bon, à ce moment-là, il faudra se débarrasser de la grippe espagnole. Il donne le lieu d'où cela vient. Et en attendant, le gouvernement chinois, lui, accuse l'armée américaine d'avoir implanté ce...
Bon, mais alors on n'est pas là pour faire une émission sur Trump, mais d'une certaine façon, quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que la réalité a davantage d'imagination que les scénaristes d'Hollywood?
Moi, ce qu'effectivement je trouve intéressant dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est que c'est effectivement un passage classique, comme tu l'as souligné, du film catastrophe, dans lequel il s'agit de ne surtout pas paniquer la population et donc de lui mentir effrontément pendant que les puissants vont se protéger. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est d'une part que la population n'est pas elle donne pas l'impression d'être en mode panique et sauvage, hein, comme Delphine l'a souligné tout à l'heure, et les gouvernements ne donnent pas l'impression non plus de mettre de l'huile sur le feu. Et surtout, il y a comme une espèce de contrat comme quoi, en tout cas en France, on n'a pas l'impression que le gouvernement nous mente, alors qu'on est habitué à se méfier systématiquement de toute déclaration gouvernementale. Mais sur cette question de la gravité de l'épidémie, c'est comme si le peuple et le gouvernement étaient en accord sur l'idée que, OK, on en est à ce niveau-là, et il n'y a pas anguille sous roche, on n'est pas en train de nous cacher des montagnes de cadavres.
Si je peux nuancer un peu ce que tu dis, effectivement, il n'y a pas actuellement l'impression que le gouvernement mente sur les présents de la situation.
Oui.
En revanche, toujours sur cette question des masques, sont en train de remonter sur Internet toute une série de déclarations d'officiels expliquant que les masques n'étaient pas nécessaires aux Français, que d'abord les Français ne sauraient jamais les mettre, donc il valait mieux ne pas en avoir. Déclarations dont on découvre aujourd'hui qu'elles étaient faites parce que, en fait, on n'avait pas les stocks.
Parce qu'on les avait envoyés en Chine, je crois, non? C'est ça?
Non, parce qu'on n'avait pas les stocks, parce qu'on les a détruits, parce que les stocks précédents étaient arrivés à péremption et qu'on ne les a pas, qu'on ne les a pas renouvelés. Alors, je ne sais pas si on n'a pas l'impression que le gouvernement... quand on entend la déclaration d'Agnès Buzyn, au Monde, expliquant qu'en fait, dès janvier, elle avait prévenu le gouvernement que ce serait très grave... Tout de même, on est bien là dans la prise de conscience d'un mensonge, et d'ailleurs d'un mensonge réel. Delphine ?
Oui, j'allais aussi évoquer cette interview d'Agnès Buzyn qui a quand même, il me semble, modifié un peu le rapport justement qu'on a à la parole officielle sur cette par rapport à cette histoire de pandémie, parce que elle a clairement mis en cause le pouvoir. Il y a un collectif de médecins là qui a porté plainte contre je ne sais pas qui exactement d'ailleurs.
Je ne crois pas que la plainte soit déjà déposée.
En tout cas, qui a annoncé. Donc ça, il me semble que quand même, là, je nuancerai aussi ce que tu dis, Rafik, sur l'adhésion de la population à la parole officielle, qui n'est, à mon sens, pas tout à fait juste. Là, il y a quand même un certain nombre de contestations qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Alors, il y a aussi eu, évidemment, une théorie du complot,
Mais qui n'a pas vraiment pris, j'ai l'impression. Hein.
Alors, qui a été démenti très rapidement.
Par contre, ce qu'il y a depuis plusieurs jours, depuis quelques heures même, je ne sais pas si tu as vu, sur Twitter, il y a un hashtag « Il savait ». Il savait. Et donc, sous ce hashtag, ressurgissent des déclarations des semaines précédentes d'officiels dédramatisant la situation, qu'il s'agisse d'Agnès Buzyn, qu'il s'agisse du directeur général de la santé Salomon, qu'il s'agisse de Michel Simès, donc le médecin qu'on voit partout à la télé. Il savait. Donc, on n'est pas vraiment dans le complotisme, on est plutôt dans l'accusation d'irresponsabilité. Voilà, il me semble que c'est ou de mensonge, mais de mensonge.
Mais d'irresponsabilité vis-à-vis de la gestion de la crise. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un soupçon qu'on nous cache une catastrophe d'ampleur. Comme ça a pu être le cas en Chine, par exemple, où on soupçonnait le gouvernement chinois de faire des, comment dire, de brûler les corps par centaines, on n'a pas cette sensation dans la population française ou même des pays voisins, comme quoi on nous cacherait l'ampleur de la catastrophe.
Et d'ailleurs, de fait, il y a des points de presse extrêmement précis du ministère de la Santé, jour par jour, avec le nombre de cas, le nombre de morts. Oui, Delphine.
C'est ça, pour rebondir sur ce que vient de dire Rafik, c'est ça que je trouve, intéressant, si on peut le dire comme ça, sans être indécent, mais intéressant dans cette situation qu'on vit là, c'est de voir qu'au fond, contrairement justement à cet imaginaire que les films véhiculent à plein, au fond, les gens sont extrêmement raisonnables. Et extrêmement nuancé par rapport justement à la parole du pouvoir, aux consignes qui sont demandées. Et finalement, on voit bien là à quel point les réseaux sociaux jouent un rôle démocratique dans le débat public, dans le débat démocratique. Les tentatives de théorie du complot sont très vite démenties. On interroge la parole officielle, mais de manière extrêmement mesurée, sans justement avoir recours à des rhétoriques complotistes, etc. Donc finalement, c'est pour ça que je trouve que la réalité, comme tu le disais tout à l'heure, Daniel, est plus intéressante que la fiction, finalement, et plus inventive que la fiction, puisque là, on voit que le comportement, disons, de la majorité, de la grosse majorité des gens, c'est un comportement citoyen, raisonnable.
Et c'est drôle parce qu'on a commencé cette émission, moi j'étais frappé par le caractère prédictif et les ressemblances, et plus on avance dans l'émission, plus je me dis, mais non, en fait, ils n'ont rien prévu du tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout prévu.
Mis à part le scénario sanitaire pandémique, et là, comme tu l'as très bien expliqué, Rafik, provient certainement d'informations qu'ils ont obtenues auprès de l'OMS, etc., que c'est une pandémie, il y en a eu d'autres avant, je veux dire, c'est pas la première, et c'est pas le premier coronavirus non plus. Et donc, ça, c'est prédictif. En revanche, les conséquences sociales ne le sont pas, en effet, puisqu'on voit conséquences sociales sont là tout à fait différentes.
Exemple type, la scène canonique de ce type de film, qui est la scène de panique. Alors, on en a vu une petite, on va dire, au début de l'émission, mais la scène principale de panique, dans toute sa majesté, sa centralité, on va en voir une, alors, qui est empruntée à un autre film, Rafik, qui s'appelle Miracle Mile. Est-ce
que tu
peux présenter ?
Oui, alors Miracle Mile, c'est un film de Steve de Jarnat, de 89-90, qui raconte comment une rumeur va parcourir la ville de Los Angeles. Donc, pour le faire bref, un personnage reçoit un coup de téléphone dans une cabine téléphonique d'un inconnu qui lui annonce que les missiles ont été lancés, et très étonné par ce coup de fil, en parle dans un bar, et dans un bar, il commence à se poser des questions sur le sens de ce coup de fil. Et chacun part de son côté avec cette idée que c'est peut-être vrai. Et au fil du film, ça se passe la nuit, au fil du film, on suit le héros qui a l'obsession de retrouver une jeune fille qu'il a rencontrée un peu plus tôt, et on voit petit à petit la ville s'animer parce que cette rumeur a commencé à prendre des proportions de plus en plus gigantesques. Arrivé vers la fin du film, sur cette séquence-là, la rumeur a touché tout le monde, et on a ce qu'on voit là.
Et ce qu'on voit tout de suite.
I finally found one. I hope he's still up there. Listen to me, I need you to go back up to the helicopter right now, okay? I'll be right there, all right?
I don't want to go anywhere without you.
Hey, get the fuck out of here! No, no, listen. I just saw the helicopter pilot over there, okay? I gotta go catch him, all right? So listen, go back up there. Take this.
Harry, right?
No, 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 there's no bullets. No bullets. Just point at anybody if there's any trouble, okay? She's not safe anymore.
I love you.
What?
I love you. I love you.
Wildfire. Unconfirmed rumors of possible nuclear attack have spread throughout.
I think we're going to a live feed now from Brian Jones. Brian Jones down in the street. Brian, can you hear me?
It's absolute madness. We're not people anymore. It's a human. It's total chaos. The fear is total. It's absolute.
Voilà, et quand je parlais tout à l'heure de scènes canoniques, c'est vrai que cette image-là, la panique de rue, l'embouteillage, on a l'impression de l'avoir vue mille fois dans des films catastrophes. Et par exemple, elle est très très semblable dans un autre film que vous avez choisi qui s'appelle Dans la brume, alors qui est pour le coup un film français. On va voir le début de...
Franco-québécois, je crois.
On va voir le début de la scène où effectivement... la panique saisit aussi le héros principal, ici Romain Duris, qui est dans la rue au moment où une espèce de fumée mystérieuse, de vapeur mystérieuse dont on ne connaît pas la composition exacte, mais dont on se rend compte qu'elle n'est pas très sympathique et elle n'a pas de conséquences très sympathiques, surgit dans la rue, provoquant alors un embouteillage général, des cyclistes qui tombent, ça, on a partout des cyclistes qui tombent, hein, et des motos qui tombent. Bon, un magnifique sprint de Romain Duris qui se réfugie dans son immeuble parisien. Alors, il faut dire que le scénario se complique un peu du fait que effectivement Romain Duris et sa compagne ont une enfant bulle, hein, une enfant atteinte d'une maladie auto-immune.
Bon, mais ils ne peuvent pas passer.
Pardon ?
Ils ne peuvent pas déplacer. Ils ne peuvent pas
déplacer. Dans une espèce de grosse bulle là, qu'on a vue et qu'ils ne peuvent pas déplacer. Bon, là, on a une scène traditionnelle. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, dans la réalité, on n'a rien vu de tel.
Et pour cause, puisque ce qu'on vient de voir, en fait, ce sont des scènes qui nous présentent l'imminence de la mort, l'imminence du danger. Aucun d'entre nous n'a vu, encore une fois, des rues jonchées de cadavres qui nous feraient complètement switcher d'un mode à l'autre. On se sent relativement en sécurité. C'est pour ça aussi que j'insistais tout à l'heure sur la relative confiance qui est accordée au gouvernement, parce qu'on se sent plutôt en sécurité. On n'a aucune raison de devenir des sauvages. Après, il suffit quand même de dire aux gens qui vont être confinés pour que les rayons de pâtes soient dévalisés dans les grandes surfaces sans aucune raison, alors que les magasins continuent à être fournis. Donc, on a quand même.
C'est intéressant ce que tu dis, Rafik. Tu te sens toi-même en sécurité en ce moment ? Tu te sens à 100% en sécurité ?
Oui, oui, oui. Moi, je me sens plutôt en sécurité d'un point de vue sanitaire. Ce qui me ferait peur, ce serait plutôt justement la possibilité d'une panique collective, un chaos social qui, lui, pour le coup, aurait des conséquences vraiment dramatiques. Sur le plan sanitaire, oui, je me sens relativement tranquille.
C'est aussi ton cas, Delphine ?
Oui, moi, je me sens en sécurité, mais encore une fois, parce que je et nous sommes, j'imagine, dans des situations privilégiées, qu'on n'a pas à quitter, enfin, qu'on est confiné, en effet, et qu'on n'est pas obligé de se rendre sur un lieu de travail avec d'autres gens pour faire notre travail, etc. Donc, je me sens en sécurité, mais je pense que beaucoup de gens ne le sont pas, ne se sentent pas en sécurité, ne le sont pas actuellement. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui vont travailler, qui sont obligés d'aller travailler. Donc, et bien sûr, tous les personnels soignants ne se sentent pas en sécurité, et d'ailleurs, ils le disent. Donc, moi, c'est pas tellement... des mouvements de panique, de foule, etc., qui me font peur, mais plus, pour le coup, l'incurie des pouvoirs publics et l'effet des réformes néolibérales qui ont cassé les services publics, etc., et qui font que on ne sait pas, voilà, dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, où en sera l'état de santé des soignants, par exemple, hein, du personnel soignant. Donc ça, c'est une vraie préoccupation.
Alors, il me semble quand même que c'est curieux, mais il me semble que vous évacuez tout de même un peu rapidement la possibilité que nous soyons tous trois contaminés sans le savoir.
Contaminants.
Contaminés et contaminants. Si nous sommes contaminés, nous sommes contaminants. Oui, mais enfin, on est tous sortis à l'air libre avant la consigne de confinement. On a tous touché des surfaces urbaines qui sont potentiellement porteuses du virus. Je n'ai pas l'impression que cette conscience-là soit extrêmement présente, en tout cas chez aucun de vous deux. Le fait que finalement, on puisse, dans notre corps, héberger l'ennemi invisible. Et je dis ça parce que pour préparer l'émission, j'étais en train de regarder tous les films du corpus, là, et je trouvais rien qui ressemblait vraiment à ce que je ressentais personnellement. Et à un moment, je me suis dit, au fond, ma situation personnelle, là, en ce moment, c'est le film de zombie. C'est-à-dire, c'est la situation dans laquelle le danger peut être très proche. Le danger peut être dans le corps d'un de mes très proches, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, qui peuvent être contaminés et contaminants sans que je le sache. Je voudrais qu'on voit une scène d'un film de zombies pour ceux de nos abonnés qui n'ont jamais vu de film de zombies. Alors, ça s'appelle Dawn of the Dead. Et alors, attention, j'ai envie de dire, éloignez les enfants.
Vivian's here.
Vivian, honey. Sweetie, are you okay?
Oh, God. Oh, fuck. Call an ambulance.
Cette situation où le danger peut être porté par les personnes qu'on aime, et les personnes qu'on aime peuvent représenter un danger. Je suis tout seul à me faire un film, là où,
plus encore que les personnes qu'on aime, les personnes que l'on souhaite protéger d'un mal qui est toujours identifié comme venant de l'extérieur. Mais ça, effectivement, depuis le film originel de George Romero de 68, on a ce retournement de situation où effectivement, le danger n'est plus à l'extérieur, mais on le porte en nous. Dans La Nuit des Morts Vivants, qui est un film original, la vérité, c'est que les personnages vont plus périr de leur enfermement et de la façon avec laquelle ils se comportent les uns envers les autres, que des zombies qui les menacent à l'extérieur. C'est une figure récurrente.
C'est cette situation très curieuse, quand même, dans laquelle on se dit, bah, voilà, moi, je suis apparemment en bonne santé, je ne développe pas de symptômes, et pourtant, je n'irai pas voir mon vieux papa, ma vieille maman, parce que ce sont des populations fragiles que je pourrais mettre en danger. Même si j'avais la possibilité matérielle d'y aller, je n'irai pas.
Mais je pense que ce qui se joue aussi pas mal dans, dans ces films, j'ai un retour son un peu bizarre. Ce qui se joue pas mal dans ces films, on va dire, d'effondrement, c'est le changement de paradigme, en fait. Hein. Il y a quand même toujours une vague morale en l'air, qui est l'idée qu'à un moment ou un autre, cette crise va faire changer la façon avec laquelle les gens considéraient leur existence jusque-là. Comment dire excusez-moi, j'ai un...
Alors, tu parlais du changement de paradigme et de l'enjeu moral de ce scénario.
Oui.
Le fait qu'on reconsidère.
Voilà. Ce qui est quelque chose qui est aussi mis en scène dans ce film français qui est dans la brume, hein, puisqu'on a cette histoire de fille qui est enfermée dans sa bulle. Alors désolé, je spoil un peu, mais l'idée en fait du film, c'est que cette petite fille qui est protégée, fera partie de ceux qui à l'avenir vont pouvoir vivre à l'extérieur et à l'air libre. Et ça, dans le film, ça signifie effectivement un changement de paradigme. Quand j'entends Delphine parler justement de l'incurie des pouvoirs publics et de la façon avec laquelle ils sont mis en accusation dans cette crise, ce que je disais en début d'émission, c'est qu'on est dans une situation qui mène irrévocablement à reconsidérer ce qu'on tenait pour la normalité des choses. C'est aussi ce qu'il y a.
Par exemple, toi, depuis le début de cette crise, qu'est-ce que tu as reconsidéré?
Alors déjà, je me félicite encore plus qu'auparavant des rapports que j'ai dans ma famille et de la proximité. Je vis très bien la proximité familiale et je m'en réjouis. Je me réjouis pour le coup du luxe dans lequel je vis en tant que Français. Qui a tout ce qu'il faut à manger, à boire, voilà.
Et combien 3000 films, tu disais.
Et 3000 films. Il y a la possibilité d'un examen de conscience, la possibilité d'un examen de l'importance de nos rapports sociaux et de tout ce qui représente, enfin d'une certaine façon, voir les gens dans les rues vides se tenir à distance de 50 mètres, ça nous rappelle que c'était quand même un peu mieux lorsqu'on pouvait se bousculer un petit peu dans les transports en commun. Enfin voilà, ça fait reconsidérer pas mal de choses. Et au niveau, effectivement, de la communication entre le gouvernement et sa population, là, on a vu que les 35 heures allaient être reconsidérées à nouveau. Tout d'un coup, toutes ces choses reviennent à la surface, et c'est d'ailleurs quelque chose dont on avait parlé dans l'émission de hors-série qu'on a consacrée à l'apocalypse, hein, cette idée que l'apocalypse, c'est la révélation, en fait, c'est que tout d'un coup, on a la possibilité de voir quel était le monde dans lequel on vivait auparavant. Et c'est aussi ce qui est en partie en jeu dans ces films apocalyptiques ou même post-apocalyptiques. C'est le post-apo, le genre post-apo, qui a vraiment explosé dans les années 70, il questionne en fait la fin d'une société obèse et le rêve de tout détruire.
Mais alors, attends, parce que là, t'es pas en train de, quand tu nous parles de ton cas à toi, tu n'es pas en train de nous parler de la fin d'une société obèse. Tu es en train de nous parler finalement d'une sorte de paradis perdu, c'est-à-dire que ça nous montre le monde d'avant comme un paradis que nous ne savions pas apprécier à sa juste valeur.
Oui, le simple fait qu'on ne savait pas l'apprécier à sa juste valeur montrait qu'il y avait quelque chose d'obèse dans le regard qu'on portait.
Il était perçu comme obèse.
Oui.
Il était ressenti comme obèse.
Mais il est probable que dans le confinement forcé, les gens redécouvrent justement les joies simples du vivre ensemble
Delphine n'a pas l'air persuadée de redécouvrir les joies simples du vivre ensemble.
Non, mais au-delà de mon propre cas, qui n'est pas problématique au niveau du vivre ensemble, je pense que précisément ce que révèle cette situation et ce confinement auquel on est forcé, c'est aussi les inégalités sociales criantes qui qui structurent notre société contemporaine, parce qu'il y a réellement des gens pour lesquels les situations de confinement sont dramatiques en raison des conditions matérielles de vie, en raison, et ça on en parle assez peu, mais des violences conjugales. Enfin, le confinement en temps de, enfin, en situation de violence conjugale, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et ça va être une catastrophe pour énormément de femmes et d'enfants, puisqu'on sait que ce sont les femmes et les enfants touchés prioritairement par les violences domestiques. Donc, je crois pas que ça soit pour tout le monde un moment de redécouverte d'une joie du vivre ensemble. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Rafik, parce que ça peut aussi être ça malgré tout, hein, évidemment, quand on bénéficie de bonnes conditions. Pour rebondir sur ce que tu disais, je pense aussi que ces situations, dans la fiction comme dans la réalité, pour le coup, c'est un moyen de revenir sur des acquis sociaux, c'est un moyen de détricoter un certain nombre d'acquis et de... alors là, on le voit bien avec la loi d'exception qui est en train de se préparer, où on va détricoter...
La loi l'état d'urgence sanitaire.
Voilà, donc où on va en profiter pour détricoter un certain nombre de droits, notamment le droit du travail. Un amendement a été déposé pour faciliter l'accès des femmes aux interventions d'interruption volontaire de grossesse, amendement qui a été refusé. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ces situations, enfin, ce sont des situations dans la réalité comme dans la fiction d'ailleurs, en général de remise en cause de droits des femmes. Et ça...
Dans la fiction aussi, Delphine, quand tu parles de fiction, tu fais allusion à quoi ?
Dans ces fictions apocalyptiques ou post-apocalyptiques, il y a quand même toujours, de manière plus ou moins explicite, mais toujours... Enfin, très souvent en tout cas, une idée de retour à une sorte de civilisation pré-industrielle comme ça et de civilisation patriarcale en fait. Hein. Enfin,
Mais clairement, en tout cas dans les extraits qu'on a vus, c'est le mec qui prend les commandes.
Toujours, hein, c'est toujours ça.
Dans la scène de panique de rue qu'on a vue tout à l'heure, c'est lui qui lui dit « Allez, va ».
C'est toujours les mecs qui… les femmes doivent se remettre aveuglément comme ça dans les mains des mecs qui gèrent la situation instinctivement. Hein. Il y a cette idée en fait derrière que face à cette situation d'urgence, on reviendrait à une sorte d'ordre naturel. Hiérarchique en fait, hein, où on retrouve.
Alors, sauf dans la scène de contagion qu'on a vue, où effectivement la femme médecin du centre mental, là, elle aussi prend les choses en main.
L'extrait de Dawn of the Dead, c'est la femme qui, pour le coup, est dans une situation de survie et qui va devoir s'en sortir par ses propres moyens. Le post-apo, enfin le film emblématique de post-apo, c'est la saga des Mad Max, dans lequel le rôle des femmes est beaucoup plus varié que.
Oui, alors c'est évidemment plus complexe que ça, c'est une tendance générale hein, que j'évoque et il y a bien évidemment, les représentations changent aussi, hein, bien entendu.
Delphine, j'ai envie de te demander, les films de post-apo, ces films-là, franchement, ils sont plus machos que l'immense majorité des films qu'on peut voir aujourd'hui sur toutes sortes de sujets ?
Non, ils ne sont pas nécessairement machos.
Ils sont machos comme les autres.
Ils participent d'un imaginaire patriarcal. Oui. Mais moi, ça m'a fait penser, en fait, aussi, ces films, au roman de René Barjavel que je lisais, que j'ai beaucoup lu quand j'étais adolescente, et que j'adorais vraiment quand j'étais adolescente, avant de me rendre compte.
Et notamment Ravage.
Et Ravage, évidemment, dont j'ai appris, d'ailleurs, en regardant un peu sur Internet pour préparer l'émission, dont j'ai appris qu'en réalité, donc le roman est sorti en 1943 et manifestement, il est paru de manière feuilletonnante ou feuilletonesque, je ne sais pas comment on dit, dans Je suis partout, qui était un canard facho, collabo.
Oui, collabo. Et il n'y en avait pas tellement d'autres à l'époque, si tu veux, en 1943. C'était les seuls qui étaient autorisés à paraître.
Oui, bien sûr. Et donc, et je savais déjà évidemment que Barjavel était à l'extrême droite, mais je savais pas que Ravage était paru. Je savais pas que c'était paru pendant la guerre, et je savais pas que c'était paru dans Je suis partout.
Et alors, quand tu l'apprends, qu'est-ce que ça te dit de plus sur le texte?
Oui, et ben ça m'éclaire en fait sur les le comment dire, l'idéologie du texte, puisque donc ça se termine par un, je spoil, mais bon, ça se termine par un retour à l'état de nature, un retour à la terre et un retour au patriarcat, hein. Un patriarcat complètement assumé d'ailleurs. Et voilà, je trouve que dans, évidemment, pas nécessairement plus dans les fictions apocalyptiques ou post-apocalyptiques que dans d'autres types de fictions, mais souvent il y a cet imaginaire patriarcal qui explique pourquoi voilà, je goûte assez peu ces films.
On a compris.
Et voilà, et avec toujours ces scènes où les mecs prennent les choses en main de manière instinctive, ouais. Comme si tout à coup l'ordre naturel refaisait surface.
Mais oui. Rafik, les films post-apo ou les films, enfin ce type de film, oui. Plus imprégné de l'imaginaire patriarcal que la...
Non, pas spécialement, comme je le soulignais, voilà, c'est un genre qui est né dans les années 70, qui est un peu considéré comme un genre contemporain du mouvement punk, qui n'est pas un mouvement spécifiquement patriarcal. La BD Tank Girl est un des emblèmes aussi du post-apo, et donc, comme son titre l'indique, ça met en scène une jeune fille qui traverse la désolation dans un tank. Les femmes dans le post-apo ne sont plus souvent représentées comme, on va dire, comme des guerrières vikings que comme des ménagères, quoi.
Et de toute façon, vous allez me donner envie de faire un hors-série sur le post-apo féministe, hein.
Il y a, voilà.
Un post-pop, quel lapsus. Post-pop sur le post-apo féministe.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est justement, est-ce qu'on était, là, ces dernières années, est-ce qu'il y avait dans tout le spectre politique, une seule branche qui soit conservatrice au sens où, de vouloir conserver la société telle qu'elle est. J'ai l'impression, moi, que de l'extrême gauche à l'extrême droite, de toute façon, personne n'était satisfait, chacun allait dans sa direction, bien sûr, mais que le statu quo n'était pas désiré, en fait.
Non, mais Rafik, je ne sais pas de quoi tu parles, mais par exemple, le film dans le film Problemos, je veux dire, dont on a vu un extrait au début de cette émission. Bon, par exemple, c'est un film qui renvoie les ridicules à parts égales des deux côtés.
Oui.
C'est-à-dire que la bande de zadistes avec leur feu de camp, leur guitare et de ne pas vouloir donner des prénoms aux enfants pour ne pas les emprisonner sous une étiquette, aussi ridicule que la petite famille hétéronormée qui arrive avec ses...
Tout à fait.
Ah. Oui. Et donc, dans ce fait de renvoyer les ridicules à parts égales des deux côtés, on ne peut pas dire qu'il y a un très fort refus de l'ordre établi. C'est-à-dire que ce qui nous est dit, c'est que les représentants de l'ordre établi, finalement, sont tout aussi ridicules que les zadistes. Enfin, voilà, il n'y a pas un des deux clans pour sauver l'autre.
Oui, mais je pense que ça fait partie d'un sentiment général que, au fond, oui. Ça ne va pas. Même si personne.
Tu lis ça, toi, dans Problemos, tu lis le message que ça ne va pas, au fond.
Non, mais je ne vais pas attribuer à Problemos un discours qu'il n'a pas. Qu'il n'implicite même pas, mais par rapport à la crise de conscience dont je parlais dans laquelle on rentre, moi j'ai le sentiment, effectivement, j'ai grandi dans une société auparavant qui était divisée entre des gens qui voulaient aller plus loin, changer les choses, et d'autres qui voulaient garder les choses en l'état. Et je ne trouve plus de gens qui veulent garder les choses en l'état, dans tout le spectre politique, sauf certains extrêmes que je ne fréquente pas, mais dans mon environnement, en tout cas, d'une certaine façon, quelles que soient les sensibilités politiques, les gens ne sont pas satisfaits de l'état.
On est bien d'accord, mais on parle ici de cinéma. Il y a toute une part de la production cinématographique qui n'en a rien à foutre de changer les choses.
Non, mais les
choses ne paraissent pas assez injustes et assez problématiques.
Parce que
de faire des films pour les changer.
Le cinéma ne donne pas de solution. Il exprime un sentiment, il exprime une émotion à un moment donné. Et d'ailleurs, ces films d'effondrement ne sont rien d'autre que l'expression de l'émotion de l'époque qui les a vu naître. Mais tous ces films racontent un moment, ou la plupart de ces films racontent un changement de paradigme généré par cette crise. Lorsque ça se termine bien, lorsqu'on en sort transformé, sans forcément nous dire à quoi ressemblera la société d'après. Mais il y a quand même l'espoir d'une transformation.
En fait, ce dont il est question aussi dans ce que tu dis, c'est la question des utopies. Hein. On dit souvent que voilà, il y a plus d'utopie, qu'on est dans une société sans utopie. En réalité, les forces conservatrices, en général, ne sont pas satisfaites de l'état de la société. Et il y a chez les conservateurs une volonté de revenir à quelque chose, à un état d'avant. Et donc, pour moi, par exemple, le néolibéralisme, c'est une force conservatrice, en ce sens qu'on veut retirer à des travailleurs, par exemple, des acquis sociaux, à des citoyens, un certain nombre d'acquis sociaux, etc.
Pour on s'éloigne revenir... un peu des pandémies et du cinéma.
Ça me permet de rebondir sur Problemos, sur ce film qui, certes, met dos à dos, renvoie un peu dos à dos comme ça, cette famille de... Voilà, de gens très bien insérés, disons, dans l'économie capitaliste, tous avec des tablettes, des iPhones, etc. Et puis les zadistes, les féministes. Alors en fait, c'est une espèce de, ils ont tout mis. Hein. Il y a donc les zadistes, les féministes, il y a même un ancien djihadiste. C'est quand même une communauté de briques et de broc.
Totalement improbable. Enfin, je veux dire,
absolument. Qui fantasme un peu le monde libertaire comme ça. Et, oui. Certes, tout le monde est renvoyé dos à dos, mais enfin. Alors moi, du coup, comme je savais pas trop quoi dire sur ce film qui est assez désopilant, faut bien le dire, qui m'a fait rire à plein de, j'ai vraiment ri à plein de blagues et il y a vraiment plein de trucs qui sont hyper bien vus et Blanche Gardin écrit très bien, donc il y a vraiment des trucs très drôles. Mais en même temps, avec un sentiment d'avoir quand même affaire à un truc assez réac, en tout cas, voilà, un peu nihiliste comme ça. Et je suis allée voir les critiques que je trouvais disponibles sur Internet. Et en fait, la réception critique de ce film, elle est réac. C'est-à-dire que ce qu'on pointe, c'est la satire bienvenue de tous ces écolos, bobos, féministos, libertaros, etc., dont on se fout de la gueule. Et c'est ça que la critique retient, en réalité. Et c'est intéressant de voir... Donc, c'est un film qui a 2 ans, qui est sorti en 2017. C'est intéressant de voir à quel point ce film est daté, et déjà extrêmement daté, parce qu'en réalité, on voit bien que là, on est à un moment où il faut trouver des alternatives, où il faut réfléchir à des alternatives politiques. Hein. Et donc, ces alternatives, elles se trouvent notamment dans l'écologie, dans le féminisme, on l'a vu dans les semaines précédentes. Et donc, finalement, en fait, c'est un film qui a 2 ans, mais qui est déjà extrêmement daté. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait, ce décalage à 2 ans de différence.
C'est vrai. C'est vrai. Bon, ben, écoutez, merci à tous les deux. Alors, je vous avais promis une sorte de spoil sur Contagion. On ne va pas passer l'extrait, on va faire un semi-spoil. Il suffit que vous sachiez que le virus a été généré par la rencontre improbable d'une chauve-souris, d'un élevage porcin industriel et d'un chef cuisinier pas très propre et évidemment asiatique, puisque le lieu de la contamination est... Casino de Macao. Voilà, j'ai quand même fait du spoil. parti pour le prochain post-pop. Et d'ici là, tous les deux, portez-vous bien.
Oui, prenez soin de vous.
Prenez soin de vous et vous aussi derrière vos écrans.